RFI, bienvenue si vous nous rejoignez. 7h30 à Bamako, 9h30 à Paris. Et à la une de votre journal, Vincent Dublanche, des tirs d'armes à feu à Bamako.
Oui, peu d'informations, Nathalie, à l'heure où l'on parle. Un camp de gendarmerie, au moins, semble-t-il, a été pris pour cible ce matin par des assaillants inconnus. Le Mali est ce procès aujourd'hui dans une affaire d'abord classée sans suite, mais dont les poursuites ont été relancées à l'arrivée des militaires au pouvoir il y a 4 ans. Accusation de surfacturation qui vise d'anciens cadres du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Nous sommes au Bénin dans ce journal où la loi permettant à tous les afro-descendants de demander la nationalité béninoise est en vigueur, même si on attend les décrets d'application. On va faire le point sur la situation humanitaire à Maïdougouri au nord du Nigeria, une semaine après la rupture du barrage. Et puis la rentrée parlementaire congolaise hier à Kinshasa avec la présence honorifique du président de l'Assemblée ivoirienne Adama Victogo. Le journal des sports dans 10 minutes et le début de la nouvelle formule de la Ligue européenne des champions de foot, il y a notamment un match Real Madrid-Stuttgart ce soir avec l'attaquant malien El Bilal Touré. Et d'abord donc, ces coups de feu entendus depuis ce matin à Bamako, au Mali, de multiples détonations dans au moins un camp des forces de défense et de sécurité maliennes, d'après une source de la gendarmerie malienne. Des hommes armés non encore formellement identifiés ont attaqué ce matin au moins un camp de gendarmerie de la capitale. En l'occurrence, il s'agit du camp situé dans le quartier Faladier, qui est dans le sud de Bamako, ce quartier entre le fleuve Niger et l'aéroport Modibo Keïta. Des tirs étaient toujours entendus il y a encore quelques minutes dans la capitale malienne. Plus d'informations évidemment à suivre toute la matinée dans nos prochaines éditions sur Radio France Internationale. Le Mali et l'ouverture, je vous le disais en titre ce mardi, d'un procès très attendu, celui qui concerne l'achat d'un avion présidentiel et des contrats d'équipement militaire passés par le gouvernement. Deux affaires qui remontent en fait à 2014, qui ont été rajoutées début juillet in extremis à la session spéciale de la Cour d'assises sur les crimes économiques et financiers. Parmi les accusés, deux anciens ministres de l'époque, Ibrahim Boubacar Keïta, Mahamadou Camara, il était le directeur de cabinet du défunt président, et Boiré Fili Sissoko, David Baché, elle était ancienne ministre de l'économie et des finances.
Classées sans suite en 2018, ces deux affaires qui portent sur plus de 130 milliards de francs CFA ont été relancées en 2020 par la justice malienne qui soupçonne des surfacturations et d'importants détournements. Certains accusés, politiques ou hommes d'affaires, ne sont pas au Mali et seront jugés par contumace. D'autres, et pas des moindres, sont attendus à la barre. L'ancien directeur de cabinet du président Ibeka, Mahamadou Camara, qui clame son innocence, aurait dû comparaître libre, sous contrôle judiciaire. Il avait accepté l'année dernière de payer une lourde caution. Mais il a finalement été incarcéré à nouveau il y a 10 jours. L'ancienne ministre de l'économie, Boiré Fili Sissoko, avait quant à elle refusé de payer. Emprisonnée depuis plus de 3 ans, elle ne cesse de réclamer d'être jugée pour laver son honneur. Les chefs d'inculpation retenus à leur encontre sont corruption, trafic d'influence, favoritisme, atteinte aux biens publics ou encore faux et usage de faux. Grand absent de ce procès, Soumeilou Boubey Maïga, ancien Premier ministre et à l'époque des faits ministre de la Défense, mort en détention il y a 2 ans et demi. Les autorités maliennes de transition s'étaient opposées à son évacuation sanitaire.
On l'a appris hier, le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a promulgué le 2 septembre dernier la loi relative à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants. D'après ce texte, les personnes ayant un ascendant africain déporté dans le cadre de la traite des Noirs ou du commerce triangulaire peuvent faire la demande pour être naturalisés béninois. La loi dont on attend les décrets d'application contient une 20aine d'articles qui fixent les conditions et les modalités. Les précisions de Jean-Luc Aplogan.
Le demandeur doit adresser sa demande au ministre de la Justice et doit remplir les critères suivants, avoir 18 ans révolus, apporter la preuve de son afro-descendance par témoignage authentifié, document d'état civil ou test ADN réalisé dans un laboratoire agréé par le Bénin. Pour celui qui n'a pas formulé sa demande à partir du territoire béninois, la nationalité lui est accordée à titre provisoire pour 3 ans. L'obtention de l'attestation définitive exige un séjour au Bénin pendant la validité validité du document provisoire. La nationalité donne la liberté d'entrée, de séjour et de sortie du territoire et le droit à un passeport. Le gouvernement béninois, lors de l'introduction du projet de loi au Parlement en mai dernier, soulignait que la traite des Noirs avait laissé des blessures profondes sur l'Afrique et les descendants des personnes déportées, qu'il veut aider aujourd'hui à renouer avec leurs origines. Plusieurs afro-descendants privilégient davantage la destination Bénin depuis que Patrice Talon fait du tourisme mémoriel de ce passé un des piliers de son programme. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Elle entend faire acte de candidature à sa propre succession. Elle l'a confirmé, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, à la tête de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Aucun autre candidat pour l'instant ne s'est déclaré. Il y a, il faut dire, une grande incertitude avec les élections américaines qui arrivent. Une victoire de Donald Trump aux États-Unis pourrait jouer en défaveur de la Nigériane. À la fin de son précédent mandat en 2020, Donald Trump avait bloqué la nomination de Ngozi Okonjo-Iweala à la direction générale de l'OMC. Le Nigeria et le président Bola Tinubu au chevet des sinistrés, des humanitaires, des secouristes à Maïdougouri dans le nord. Il y était hier. Une semaine après les importantes inondations dans la grande ville, capitale de l'état du Borno, Maïdougouri, où 40% de la ville est toujours sous l'eau après la rupture d'un barrage provoqué par les fortes pluies. D'après les humanitaires, plus de 400 000 personnes ont dû quitter leur foyer pour se réfugier, notamment dans des camps déplacés à l'extérieur de la ville. Écoutez Trond Jensen, il dirige le bureau onusien de coordination des affaires humanitaires, l'OCHA, au Nigeria.
La moitié de la ville est toujours touchée. À cause des crues, il est encore difficile de se déplacer. Certains ponts de la ville ont été endommagés ou détruits. Et actuellement, nous accueillons plus de 300 000 personnes dans des logements temporaires dans 30 camps autour de la ville. Nous sommes extrêmement préoccupés par la surpopulation dans ces installations et par le risque d'éventuelles épidémies. Ce que nous essayons de faire avec le gouvernement, c'est de fournir à ces gens les choses dont ils ont le plus besoin, comme des aliments cuits, l'accès à l'eau potable, l'accès aux services sanitaires et la protection pour les enfants non accompagnés. Un grand nombre de personnes ont été impactées par ces inondations. Les autorités locales disent que jusqu'à 1 million de personnes ont été touchés d'une façon ou d'une autre.
Propos recueillis par Pierre Firsion. Il s'est déroulé sans complication. L'armée américaine annonce la fin officielle de son retrait du Niger. Les États-Unis qui espèrent toujours coopérer avec la junte militaire à Niamey. Joe Biden en Afrique pour la fin de son mandat. La presse américaine révélait la semaine dernière un potentiel voyage prochainement en Angola. On apprend qu'il va d'abord se rendre, et ça c'est officiel, en Égypte pour discuter des efforts de cesser le feu dans la bande de Gaza. La visite à Kinshasa du patron des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix. Il a vu hier la ministre congolaise des Affaires étrangères. Il doit voir aussi des responsables de la mission de la SADC au Nord Kivu. Il doit se rendre en Ituri et au Nord Kivu. Les détails sont à lire sur notre site internet. L'ambassadeur congolais en Belgique, convoqué par le ministère belge des Affaires étrangères, Bruxelles proteste contre la condamnation à mort de Jean-Jacques Wondo, qui est citoyen belge, condamné vendredi dernier dans le procès sur les événements du 19 mai, qualifié de tentative de coup d'État ratée par les autorités. La République démocratique du Congo, où les députés et les sénateurs ont fait leur rentrée hier, première rentrée pour le deuxième quinquennat de Félix Tshisekedi, après des vacances assez agitées. Le Parlement a donc repris le travail en appelant le gouvernement à s'investir dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Pascal Moulégoua.
Bien avant les plénières d'ouverture, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, a déposé le projet de budget de l'exercice 2025 chiffré à 18 milliards de dollars. Il y a une augmentation de 21% par rapport à celui de l'année finissante. Pour cet exercice, le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, fraîchement installé, incite le gouvernement à s'investir.
J'encourage le gouvernement à déployer plus d'efforts pour mobiliser des recettes intérieures et prendre à bras le corps la problématique liée au climat des affaires, notamment la lutte contre l'incivisme fiscal, le coulage des recettes et la corruption. La dépréciation de notre monnaie est à la base de la chute du pouvoir d'achat de notre peuple et impacte négativement le panier de la ménagère.
Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, réclame un budget de relance.
Un budget de réforme, un budget de transformation. Notre responsabilité est d'assurer que les choix budgétaires reflètent réellement les priorités réelles du peuple congolais et répondent aux défis auxquels nous faisons face.
Invité de marque, Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, s'est adressé aux élus congolais.
Vous devez porter l'espérance du peuple congolais. Le temps est venu pour notre Afrique de s'engager résolument dans la voie de la transformation de nos économies en privilégiant le développement humain. Il n'est donc pas indiqué que les guerres soient le quotidien de nos peuples qui aspirent à un mieux-être.
Les deux chambres ont annoncé l'intensification prochaine du contrôle sans complaisance de l'action gouvernementale. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI.
Il est 10h40 à Madagascar. Antananarivo, sur la grande île. Les aspirants maires et conseillers municipaux ont une semaine de plus jusqu'au 26 septembre pour boucler leur dossier de candidature. C'est ce qu'a déclaré hier le rapporteur général de l'instance électorale, la CENI, à RFI. L'institution attend toutefois encore le feu vert du gouvernement. Décision contrainte, puisqu'on en parlait la semaine dernière sur notre antenne. Ces élections locales ont du mal à mobiliser au niveau des candidats. Un nombre infime de candidatures a été enregistré à 7h. Pauline Le Troquier.
Sur les près de 1700 communes que compte la Grande Île, seuls 79 dossiers de candidature ont été déposés, selon les dernières données connues par Souhav Anjamaroutfik, rapporteur général de la CENI. De nombreuses communes se trouveront-elles sans candidat le 11 décembre prochain ? Oui, répond Erininahari Mossessi, le président de l'Observatoire de la vie publique de Madagascar, a dû lui-même renoncer à se présenter à la commune urbaine d'Antananarive. Il pointe des procédures administratives plus lourdes à surmonter cette année.
On ne facilite pas dépôt de dossiers de la part des postulants. Malheureusement, dans ces conditions-là, il y aura un désert de candidature. Ça tend vers quelque chose qui ne soit pas du tout démocratique. En tout cas, ça ne fait pas avancer la démocratie dans ce pays.
D'autres maires relativisent la situation. C'est le cas de Parsou Anjaboulanarive, maire de la commune de Mertsiatousk.
Les hommes et les femmes politiques malgaches ont l'habitude de déposer leur candidature au dernier moment. Donc, je vous assure qu'il y aura des candidats avec toutes ces communes-là.
La CENI se veut quant à elle rassurante. Elle affirme que ce changement inévitable de calendrier n'affectera pas la date du scrutin. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Et pour terminer ce journal, je reviens sur la situation au Mali dont je parlais en début d'édition. Pas beaucoup plus d'informations à l'heure où l'on parle, mais toujours ces coups de feu qui ont été entendus depuis ce matin à Bamako, dans au moins un camp de la gendarmerie dans le quartier de Faladier, dans le sud de la capitale malienne. Plus d'informations évidemment dans les prochaines éditions. On appellera normalement dans le journal de 10h notre correspondant régional Serge Daniel. Nathalie Amar, c'est à vous.
Merci Vincent Dublange.